Bonjour, bonjour à nos auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver sur nos ondes locales. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à tous. C'est bientôt l'été, au moins sur le calendrier.
Bientôt l'été. Ce sera le moment de porter un chapeau de paille pour se protéger du soleil.
Savez-vous qu'une fabrique de chapeaux de paille a existé à Bourg-en-Bresse, voici plus d'un siècle ?
Eh bien, nous l'évoquons après avoir écouté le twist du canotier par celui qui le portait le plus élégamment, Maurice Chevalier, accompagné par les Chaussettes Noires en 1962.
Avec mon canotier, sur le côté, j'ai fait danser le twist.
Le twist !
Au monde entier.
Avec son canotier, sur le côté, sur le côté.
J'adore danser le twist.
Le twist ?
Ouais, 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 ouais. Lorsque ma bonne m'entrait sur le plateau, à l'Alhambra, à l'Apollo, les gens debout la salle chauffée à blanc. Je vous assure que ça twistait drôlement avec mon canotier.
Sur le côté,
j'ai toujours fait le twist.
Le twist ?
Ouais, 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 ouais.
Notre chronique du passé évoque donc cette fabrique de chapeaux de paille à Bourg.
Oui, et l'ouvrage italien devenu français, récemment publié par les Chroniques de Bresse et l'Association franco-italienne de Bourg, révèle qu'une telle fabrique a existé dans le quartier de Bel Air. En réalité, l'histoire commence bien avant, au bas de la ville, place de l'Étoile, une place bien modeste, qui se situe à l'arrière de l'actuel Café Français.
Le recensement de 1876 indique en effet que Raphaël Giambellotti, originaire de Florence, s'est installé là comme blanchisseur de chapeaux. Quatre ans plus tard, en juillet 1880, il crée une société pour la fabrication, le blanchissage, l'après, la teinture, le commerce et la vente de chapeaux de paille, en s'associant à son épouse Eulalie Nannicini et à son beau-frère, Morand Nannicini, sous l'appellation Giambellotti et Nannicini fils.
Rappelons le contexte de l'époque. Les deux Savoies sont devenues françaises en 1860 grâce à l'action de Napoléon III et du comte de Cavour. Le tunnel du Fréjus, inauguré en septembre 1871, facilite les relations franco-italiennes. La durée des trajets a fortement diminué tant pour les hommes que pour les marchandises. Cette situation profite à l'ensemble du département et l'afflux de main-d'œuvre italienne ne fera que progresser au fil des décennies.
L'entreprise, elle, semble prospérer car d'autres membres de la famille Nannicini rejoignent Bourg, en Bresse, sur une durée ou plus pour un temps seulement. Ces Italiens de Florence semblent bien installés dans la ville, mais l'affaire se complique en juin 1894, après l'assassinat du président de la République française, Sadi Carnot, à Lyon. Il est poignardé le 25 juin par l'anarchiste italien Santo Caserio, au cours d'une période politiquement troublée par les extrêmes. Cet acte entraîne une vague anti-italienne sur l'ensemble de la France et aussi à Bourg.
Des regroupements se font en plusieurs endroits, devant des magasins tenus par des Italiens, notamment dans le quartier de la gare, c'est la rue Alphonse Baudin et rue Voltaire, où une vitrine est brisée et dans le bas de la ville, rue du 4 septembre. L'intervention des gendarmes empêche que ces incidents ne dégénèrent et le calme revient rapidement. Dans les jours qui suivent ces incidents locaux, deux des trois frères Nannicini demandent leur naturalisation.
En juin 1896, ils créent une nouvelle société sous le nom collectif Nannicini Frères. Ils s'installent rue Alphonse Baudin à Bourg, près de la gare. Les statuts précisent que les associés devront donner tout leur temps et tous leurs soins aux affaires de la société. Leurs femmes ne pourront en aucun cas s'immiscer ni donner des ordres. Cette phrase peut faire sourire, mais les choses sont claires. D'un côté, les affaires. De l'autre, la famille.
En janvier 1908, la société conserve son appellation et elle appartient à parts égales à Morand et Bruno Nannicini. Ils sont tous deux mariés à des Françaises. Morand, l'aîné, a une Toulonnaise et ce couple a une fille, Augustine, née à Bourg en 1892. Bruno a épousé une jeune femme dénommée Riche, R majuscule, le nom patronyme de notre président des chroniques. Mais le mari est resté italien et le mariage n'a pas été retrouvé en Bresse. Sans doute a-t-il été célébré en Italie et il faudrait aller enquêter du côté de Florence. Contrairement à beaucoup d'Italiens arrivés en France, il restera fidèle à sa nationalité d'origine et sa fille est née en Italie.
Ils sont néanmoins bien intégrés dans la vie burgienne. Et Bruno, bien qu'officiellement non français, préside le Vélo Club Bressan à partir de juillet 1905. Cette société sportive organise alors les courses cyclistes sur le vélodrome installé chaque année sur le Champ de Mars à Bourg. Bruno Nannicini est sans doute en photo sur les cartes postales éditées en 1906. Il est l'ami de Joseph Chapollard. Vous savez, le constructeur des cycloradiors que nous avons récemment évoqué à cette antenne.
La manufacture de chapeaux se développe et les deux frères prospectent dans leur quartier de Bel Air pour trouver un terrain nécessaire à la construction d'une nouvelle fabrique. Ils le trouvent rue de la Gendarmerie à Bourg, qui est l'actuelle rue de l'Estrin. Et à l'occasion de son ouverture, le Courrier de l'Ain lui consacre un reportage en novembre 1909.
La fabrique compte alors 70 employés, en associant les ouvrières travaillant à domicile. L'employé le plus ancien compte déjà 29 années de service. À son arrivée, le journaliste remarque d'abord la haute cheminée qui, selon sa première impression, poignarde l'azur avec audace. Elle domine des ateliers de fabrication avec les perfectionnements les plus modernes. Les bâtiments sur la rue sont assez modestes, et le journaliste nous conduit à l'intérieur.
Dans le vestibule d'entrée, les bureaux clairs et vitrés permettent d'embrasser toute la chaîne de fabrication. Les tresses de paille, en provenance de plusieurs pays, sont jetées successivement dans 4 cuves de différents bains, oxygène, soufre, sel d'oseille et azurage.
Ensuite, elles subissent une désinfection, un lavage, un blanchiment et une préparation pour rehausser leur beauté naturelle. Elles sont séchées dans des cuves, à l'abri de la lumière. La paille est ensuite reprise selon les besoins de la fabrication.
La confection est l'œuvre de femmes travaillant sur des machines à coudre mécaniques ou électriques. Avec les tresses préparées, 25 couturières forment les chapeaux. Le plus difficile est le point de départ. Et ensuite, il faut 5 minutes pour en fabriquer un.
La phase suivante est l'apprêtement. Le chapeau est trempé dans un bain de colle très chaud pour le rendre malléable avant sa mise en forme et son séchage. La finition se fait à l'aide de presse pour tasser la paille et régulariser les angles et les bords. Cette chaîne de fabrication est finement élaborée et, à sa sortie, le chapeau est passé entre les mains de 14 ouvriers. Il reste encore à ajouter un ruban à chaque chapeau.
Pendant ce temps, deux ouvriers travaillent à l'atelier de menuiserie pour fabriquer des caisses d'emballage. La manufacture produit chaque mois plusieurs milliers de chapeaux qui sont expédiés par le chemin de fer dans la France entière et même au-delà. Une carte postale publiée dans l'ouvrage montre cette fière manufacture avec sa double inscription, sa haute cheminée de briques sur la droite et devant le portail entrouvert, l'un des frères Nannicini, sans doute le plus âgé, Morand. La fabrique dispose aussi d'élégantes cartes de correspondance et d'une affiche datée de 1895, avec une Bressane en costume au premier plan et des angelots jouant avec des chapeaux de paille en arrière-plan.
Oui, nous sommes à la belle époque, une période relativement heureuse, comme le démontrent les nombreuses cartes postales. On voit les hommes, presque tous coiffés de chapeaux de paille, comme lors des rassemblements de gymnastes ou de mutualités, ou encore comme ces spectateurs au départ du prix radieur des cyclistes en juin 1911. Des chapeaux sans doute fabriqués par les frères Nannicini.
Durant cette période, les familles évoluent. Augustine Nannicini, que nous avons évoquée, se marie en juillet 1911 avec François Girard et ce gendre est intégré à la gestion de la société qui, en août 1913, devient la société Nannicini et compagnie, avec le soutien de financiers lyonnais.
Mais cette belle époque ne dure pas, car l'Europe se déchire et plonge dans la guerre en août 1914. Les hommes sont massivement mobilisés et toute l'économie est dédiée à la guerre. Le temps de l'insouciance et de la légèreté est terminé. Les chapeaux de paille sont moins utilisés. Et en outre, l'unité familiale est rompue par le divorce de Morand Nannicini en août 1915, avec séparation de corps et de biens. Son épouse rejoint son Var natal.
Toutes ces difficultés fragilisent l'entreprise, qui n'a d'ailleurs que peu d'espace dans un État en guerre. D'autant plus qu'en août 1914, France et Italie ne sont pas dans le même camp. Même non engagée aux côtés de l'Allemagne, l'Italie reste un ennemi potentiel pendant les premiers mois. Compte tenu de son âge et resté italien, il est possible que Bruno Nannicini ait été mobilisé en Italie. Là encore, une piste de recherche.
Nous sommes dans la guerre. Les informations sont parcellaires, car la presse est sous le contrôle du gouvernement et souffre de l'absence de ses employés et du manque de papier. Nous n'avons guère d'informations durant cette période. Le courrier de l'Inde du 27 mai 1920 annonce la liquidation du stock de la fabrique par des soldes d'articles de chapellerie et de vannerie et tout un assortiment de rubans, galons et garnitures.
C'est le gendre François Girard qui procède à cette liquidation, car il a déjà donné une autre orientation à l'ancienne entreprise. Il a monté un commerce de chapellerie et vannerie, et surtout de céramique. Il est présent à la foire de Lyon dès mars 1919. Et un reportage, dans un journal lyonnais, indique qu'il est absolument imbattable pour sa collection de terres cuites artistiques et de faïences italiennes.
La fabrique n'a pas été reprise par la chapellerie Segault de la rue Alphonse Baudin. Cet établissement apparaît au début des années 1910. Ainsi, durant une courte période, la ville de Bourg-en-Bresse a compté deux chapelleries dans le quartier de la gare. La chapellerie Segault continuera à fonctionner jusqu'au début des années 1970.
Alors, revenons au gendre de Morand Nannicini. François Girard a choisi une marque commerciale pour sa nouvelle activité, Francisque Girard. Il va développer tout un commerce d'articles variés et une fabrication de meubles bressants. Il est vrai qu'il est totalement bressant par sa naissance. Il s'installe en face de l'église de Brou.
Nous terminons en nous rappelant ces belles images de la belle époque, celles des chapeaux de paille à l'élégance toute italienne. Nous remercions nos collègues des Chroniques de Brest pour cette documentation. Nous saluons Jimmy à la technique et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique du passé. Au revoir à tous, tout en écoutant Le chapeau de Mireille par Marcel Amont.
Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chipé.
Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé,
entre Sète et Marseille, quel joli vent l'avait chipé. C'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, les quilons joufflus, c'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande d'Aïonne, en un mot le Mistral, il me l'a fit connaître aussi dorénavant, je ne mou plus mon blé. Qu'à des moulins à vent. Quand la jupe à Mireille, oh se troussa, oh se retroussa, découvrant des merveilles, quel est le bon vent qui s'est permis ça.
Quand la jupe à Mireille, oh se troussa, oh se retroussa,
découvrant des merveilles, quel joli vent s'est permis ça. C'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'on joue plus, c'est pas pour autant l'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande d'Aïonne, en un mot le Mistral. Il me montra sa jambe aussi reconnaissant, je lui laisse emporter mes tuiles en passant. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, quel est le bon vent qui retint son bras.
Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra,
me tira les oreilles, quel joli vent retint son bras. C'est pas le zéphyr, non. aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui n'en joue plus, c'est pas pour autant. L'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la panda et oh, en un mot le Mistral. Il m'épargne à la gifle aussi dessus mon toit, y avait qu'une girouette, y en a maintenant trois. Quand avec Mireille, dans le fossé, on s'est enlacé, à l'ombre d'une treille, quel est le bon vent qui nous a poussé?
Et quand avec Mireille, dans le fossé, on s'est enlacé,
à l'ombre d'une treille, quel joli vent nous a poussé? C'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'on joue plus, c'est pas pour autant. L'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande aïeule, en un mot le Mistral. Il me couche à Suresnes, en échange aussitôt, j'ai mis une voile de plus à mon petit bateau.
La 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 la.
Et voici maintenant le couplet des adieux, ainsi dénommé parce que Georges Brassens l'a écrit à Fontainebleau en 1815.
Quand j'ai perdu Mireille, que j'ai penché le cœur affligé, des larmes sans pareille.
Quel joli vent les a séchés, c'est pas le zéphyr, n'aurait pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui l'on joufflu, c'est pas pour autant. L'OTAN, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la panda et oh, en un mot le Mistral. Il balaye à ma peine aussi sans lésiner, je lui donne toujours mes bœufs à décorer.